Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons donc aujourd'hui en terminer avec cette divinité appelée Vertrakna. Et nous avions terminé la dernière leçon en faisant remarquer que nous savons tout de même depuis maintenant une quinzaine d'années qu'il y a certes un mythe commun à l'Inde et à l'Iran, tout au moins un mythe dont nous pouvons extraire une série assez impressionnante de parallèles. Je vous le résume. Hein. Un héros, semi-dieu, semi-humain, plus ou moins divinisé. Un héros qui porte l'ordinal troisième dans son nom. Trita en Inde, Traitauna en Iran, Tu, Han, Jan, pour plaire à la formulation de Calvert Watkins. Il tue un dragon, serpent, Ahi en indien, Aji en avestique, qui est qualifié en Inde de Dasa, c'est une désignation ethnique de l'ennemi, en Iran de Dahaka, les deux termes sont évidemment apparentés, et qui présente, du point de vue du rapport de pouvoir avec son adversaire, des caractéristiques identiques, de telle sorte que l'on peut faire intervenir la notion de Vertra. Mais cette notion de Vertra, de force défensive, est attribuée au héros dans le mythe iranien et a naturellement fourni le nom de Vertra dans l'Inde. Cela fait beaucoup, hein, cela fait beaucoup. Ce mythe n'avait pas été pris en considération par Benveniste et Renou, comme je vous l'avais fait remarquer, parce que manquait le schéma essentiel de la libération des eaux. Or, vous ai d'ailleurs fait remarquer la dernière fois que si le meurtre d'Ajidahaka par Traitauna était l'un des trois mythes iraniens de conquête ou de libération des eaux, mais revu par les âges du monde. Car nous y sommes. Nous y sommes. Il y a des différences, bien entendu, entre le mythe iranien et le mythe indien. L'Iran ne connaît pas Indra. Ou il le méconnaît, ou il le rejette. D'autre part, le mythe de Traitauna, dans la représentation de l'histoire mythique iranienne, est évidemment un mythe lié à la doctrine des âges du monde. Il y a trois mythes de libération ou de conquête des eaux. Le premier mythe, c'est le sacrifice archétypique des Fravashi qui empêche l'esprit mauvais, lorsqu'il attaque la création d'Ahura Mazda, d'empêcher les eaux de couler et les plantes de pousser. C'est donc un mythe de libération à l'envers, comme je vous le disais, qui empêche une tentative d'asservissement. Or, ce mythe est constitutif de la constitution du troisième âge du monde, c'est-à-dire celui du monde mobile, matériel mobile, en mouvement. Le mythe de Traitauna est un de ces mythes qui prépare la reconquête des eaux et du climat qui seront nécessaires à l'apparition du quatrième âge du monde, c'est-à-dire le monde matériel mobile avec la religion, car c'est cette reconquête du climat et des eaux qui prépare l'intervention décisive de Zarathoustra, son surgissement à la surface de la Terre, apportant la religion, la Daïna. Voici donc pour nous résumer, pour nous en étions là, lorsque l'heure de la fin du cours a sonné la dernière fois, et nous pouvons donc établir malgré tout qu'il y a une véritable filière mythologique entre les temps indo-iraniens et l'état des choses dans l'Avesta iranien ou le Veda indien. Maintenant, je voudrais en venir au dieu Vertrakna iranien, à proprement parler, car il n'intervient évidemment pas dans ce mythe. Et il nous faut pour cela rappeler peut-être ce que nous avons pu établir du concept avestique de Vertrakna lors du cours de l'an dernier. Si vous vous souvenez, je dois faire un petit rappel pratique. Comment se présente le rituel du yasna, hein? Le centre est occupé par les textes vieillavestiques, comme vous savez. Or, dans le rituel du yasna, avec intercalation des chapitres du visprat, un chapitre du visprat est intercalé entre chaque gata. Le visprat 13 à 24, il y a 12 intercalations, parfois il y a deux chapitres, ce qui explique le nombre un peu différent. Il y a 5 gata, mais il y a 12 chapitres du visprat intercalés. Or, ces chapitres du visprat sont une forme de commentaire qui prend l'allure un peu déconcertante et apparemment banale d'une litanie en yazamaïdé. Nous sacrifions. Mais on s'aperçoit que les notions, les concepts, les abstractions auxquelles on fait cette déclaration sacrificielle sont des termes repris à la gatha. C'est une manière pour l'auteur de l'Avesta récent, l'auteur du visprat en l'occurrence, d'attirer notre attention sur les termes qui, à ses yeux, bien sûr, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité du texte, c'est pas, d'attirer notre attention sur les textes, sur les mots qui comptent dans la gatha. Voici quels sont les mots importants, voici ce qui se passe à ce moment-là. Sous la litanie en yazamaïdé, ce que nous avons en réalité, c'est une exégèse. C'est la manière dont l'auteur du visprat comprend le texte des gatha, l'importance qu'il lui attribue. Or, le 20e chapitre du visprat est intercalé entre la dernière gatha, l'avant-dernière gatha, qui ne comporte qu'un chapitre, le yasna 51, et la toute dernière gatha, qui ne comprend elle aussi qu'un chapitre, le yasna 53. Vous verrez que vous me direz, oui, oh, attention, il manque un chapitre, mais j'y viens tout de suite, 52 n'est pas... Bon. Or, c'est à ce moment, nous dit l'auteur du visprat, entre la gatha du yasna 51, la gatha vohukshatra et la gatha vaishto ishti, le yasna 53, que se produit cet événement décisif qui est le vrtrakna. C'est là, dans l'interstice entre ces deux gathas, qu'a lieu le vrtrakna. Or, qu'y a-t-il entre les deux gathas en réalité? Il y a deux choses, ce qui perturbe un peu le tableau. Il y a une insertion récente, qui est un texte consacré à la déesse Ashi. C'est notre Yasna 52. Mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose qu'il faut bien se représenter, puisque notre texte, ce n'est pas un livre, c'est un récitatif liturgique. Nous devons tenir compte des caractéristiques du récitatif liturgique. Ce que nous trouvons aussi entre les deux gathas, c'est la répétition du Yasna Haptankaiti, le deuxième Yasna Haptankaiti, qui est récité entièrement, et que Toal dit avec une beauté particulière, à ce moment du rituel. Donc, une seconde récitation du Yasna Haptankaiti, c'est un détail ancien, puisque cette seconde récitation porte un nom avestique. C'est le Yasna Haptankaiti Apara, Apara, de la fin, pas celui du début. Donc, c'est un trait de rituel ancien. Bien, alors, voilà ce qu'est le Vrtrakna pour l'auteur du visprat, n'est-ce pas ? C'est au fond à la fin de la récitation des gatha, pas dans les derniers, dans la fin des stauta yesnia, mais à la fin de la récitation des gatha, l'événement se produit quand on récite le second yasna haptankaiti. Alors, nous pouvons déclarer autre chose. Indra et Vrtrahan, ils brisent l'obstacle. Il arrive aux dieux masdéens, aux dieux avestiques, eux aussi, d'être Vrtrajan. Or, Benveniste en avait fait dans Vrtra Vrtrakna la liste, nous l'avions examiné ensemble. Qui sont les entités, les notions, les divinités Vrtrajan selon l'Avesta récent? Eh bien, je crois, en vertu de la métaphore, en vertu de la métaphore, le vent, Vata. Vata a pour épithète quasi usuel Vrtrajan. Peut-être parce que simplement dans le domaine de la mythopoésie, le vent, ce qui nous donne la meilleure illustration concrète de ce qu'est le fait de se débarrasser de l'obstacle, peut-être. Bien. Alors, en fonction de la mythologie héritée, oui, nous venons de le voir, Traitauna et Vrtrajan. Traitauna et Vrtrajan. Et puis, nous avons un complexe de divinité. Nous en avions parlé la dernière fois, je vous rappelle, mais je vous établis ici le contexte dans ses rapports avec Vrtrakna. Le dieu Srausha. Le dieu Srausha est le dieu Vrtrajan par excellence. Les prières aussi, quand je dis les prières, mettez-les entre guillemets, il s'agit de ces formules introductives des gathas, le Lahuna Vairia, la Shemvohu, l'Yenye Atam, mais surtout, surtout la dernière, la prière conclusive, l'Aryaman Ishya et Vertrajan. Mais oui, mais n'est-ce pas, l'Aryaman Ishya, Yasna 54.1, il suit la dernière gatha. Nous sommes dans le secteur final, hein, secteur final du processus. Le Saushyant final, le Saushyant, hein, le fils posthume de Zarathoustra qui mettra fin au monde du mélange et procédera au sacrifice de la fin des temps. Il est Vertrajan par excellence aussi. Et puis Hauma, Hauma. Ce qui est peut-être un peu surprenant, parce que Renou a fait remarquer explicitement dans l'introduction à cette traduction des hymnes de Soma, dans les études védiques et paninéennes, que le Soma indien n'était jamais Vertrajan. Or, Hauma, dans l'Avesta, est systématiquement Vertrajan. Or, tout ça compose un ensemble, hein, un ensemble. N'oublions pas ce qu'il... la manière dont les secteurs de l'Avesta récent qui entourent les gathas, le Yasna 56 d'une part, et au début le Yasna 27.6 nous présente Srausha. Srausha incarne les sonorités du rite. Et que sont les sonorités du rite selon le Yasna 27.6? Eh bien, c'est la récitation retentissante, une forte insistance sur le verbe entendre, écouter, hein, manifester le bruit. Hein, c'est la récitation retentissante de la Lahuna Vairia et de l'Aryaman Ishya. C'est aussi, et là Hauma intervient, le bruit des pressoirs. Le bruit des pressoirs pressurant le soma. À grand bruit, dit le texte. Motif que nous retrouvons bien sûr dans le Rig Veda. Or, Srausha, selon son yasht, est le premier sacrificateur du monde matériel. Il est le premier qui, dans le monde devenu matériel, a rendu un sacrifice à Ahura Mazda. Saushyant est le dernier. Ils occupent les extrémités de la permanence sacrificielle. Ils sont ceux qui font retentir au début et à la fin le chant des prières et le bruit des pressoirs. Donc là, nous avons vraiment un ensemble d'entités qui, pour les mêmes raisons, en définitive, sont définies comme celles qui procèdent à la fin de la récitation des gathas, à cet événement essentiel qui est le bruit, qui est le bruit de l'obstacle. Alors, je vous le rappelle, le point d'introduction de la qualité de Vertrajan dans cet ensemble, c'est Srausha. C'est Srausha. Pourquoi est-il Vertrajan ? Rappelez-vous, en fonction d'une exégèse du Yasna 44.16. Le Yasna 44.16, c'est un vers des gathas, pose la question, hein, simplement, comprenez comme vous voulez, qui est Vertrajan ? Qui est Vertrajan ? Et puis le texte continue. Mais le texte se déroule de telle sorte qu'on peut comprendre qu'il s'agit de Srausha. On peut comprendre qu'il s'agit de Srausha. C'est comme cela que les auteurs récents comprennent. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pas, il y a au moins deux autres réponses possibles quand on lit le texte. Deux autres réponses possibles. Mais c'est une possibilité réelle malgré tout. Il se peut que l'exégèse rencontre dans ce cas-ci la réalité. Mais ce n'est qu'une possibilité sur trois. Alors, rien n'indique, maintenant il faut devenir plus général et nous dire que rien n'indique que la notion de Vertrakna dans l'Avesta récent, ce soit autre chose que ça. L'allégorie du bruit de l'obstacle, événement sacrificiel, censé survenir à la fin de la récitation des gathas, donc dans la phase déclinante du rite. Le rite, la partie importante du rite, va s'achever. Alors, si vous le voulez bien, après vous avoir montré le tableau des opinions traditionnelles sur le problème de Vertrakna, le tableau de la représentation que proposait de lui substituer Renou Benveniste en 1934, puis au fond le document de synthèse, hein, la manière dont le livre de Benveniste Renou a été reçu, la manière dont il a été critiqué, donc la manière dont la vue traditionnelle a été modifiée à la suite du livre, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous proposerai un schéma personnel. Je vous propose à titre d'hypothèse, et le voici. Et vous verrez qu'il est un peu plus compliqué. Rien ne nous certifie qu'il a bien existé à l'époque indo-iranienne une allégorie de la victoire appelée Vrtrakna, comme le disait Renaud. C'est une possibilité, mais ça n'est pas sûr. Rien ne nous assure non plus qu'à l'époque indo-iranienne, il y ait existé un dragon, personne démoniaque appelée Vrtra. Mais c'est une possibilité. C'est la raison pour laquelle, dans mon tableau, je mets ce terme entre parenthèses et je l'affuble d'un point d'interrogation. On pourrait en faire de même avec Vrtrakna. Mais n'allons pas trop vite, nous n'en avons pas le signal. Bien, alors cet obstacle, c'est un terme qui est simplement et très banalement, d'autres le sont de manière plus compliquée, comme vous savez, amphipolaire. Bien entendu, Vrtra, la force de résistance, si elle est exercée par un héros positif, la polarité est positive. Si elle est exercée par un héros négatif, elle est négative, ça va de soi. Et dans le composé Vrtrajan ou Vrtrakna, pas naturellement, puisque c'est là l'obstacle qu'il faut briser, le sens est évidemment négatif. C'est une chose négative qu'il faut briser. Alors, je voudrais insister ici, j'ai fait un tableau au deuxième stade, il y a par rapport à d'autres dieux mazdéens que nous avons analysés, quelques particularités importantes et surtout négatives. D'abord, une absence de contextualité. Nous ne savons pas exactement quelle est la sphère sémantique à laquelle pouvait bien se rapporter cette force de résistance que nous avons restituée pour les temps indo-iraniens. Je ne peux rien faire. Pour les autres dieux mazdéens ancrés dans la terminologie indo-iranienne, comme les Fravashi, que nous avons étudiés il y a 2 ans, comme Saoucha, comme Ashi, c'est clair, n'est-ce pas ? C'est clair, la contextualité, celle du rituel. Ce sont des entités rituelles. Les Fravashi, le verbe var, choisir, c'est très vaste. Mais il est contextualisé. Nous savons que c'est le choix de la cible sacrificielle. Et de façon réversible, l'agréation des officiants par la cible sacrificielle, par les dieux. Donc là, il y a une contextualisation qui fait qu'on ne parle pas de n'importe quel choix. Narten l'avait fait remarquer de manière plutôt, elle, critique, faisant remarquer que nous devons nous méfier, n'est-ce pas, d'interpréter tous les termes des textes liturgiques, védiques et avestiques que nous possédons par la contextualité rituelle nécessairement. Moi, je crois qu'on n'y échappe pas, tout simplement parce que nous avons simplement et uniquement des textes liturgiques. Je ne vois pas comment nous pouvons en sortir. Nous n'avons pas la possibilité théorique d'échapper à ce circuit-là. Pour les Fravashi, c'est vrai. C'est vrai pour Saoucha. Il incarne les sonorités du rite, le chant des prières et le bruit des pressoirs qui pressurent le haouma. C'est aussi une contextualité sacrificielle. C'est vrai aussi d'Ashi, oui, c'est la déesse du circuit départ-arrivée. Oui, mais ce départ-arrivée, c'est le dos-des sacrificiel. C'est cela aussi qu'elle incarne. Donc, la contextualité rituelle est évidente pour les autres divinités. Pour Vrtrakna, non. Nous n'avons pas de traces indo-iraniennes de cela, tout simplement parce que les deux domaines indiens et iraniens sont trop différents. Et c'est pour cela qu'à l'autre bout du tableau, j'ai noté que nous ne pouvons pas restituer de manière commune une coloration ritualiste de la notion de Vrtrakna. Nous ne pouvons pas. Dès lors, si elle est présente dans la tradition avestique, on peut le supposer, on peut en faire l'hypothèse, on peut le postuler, mais on le fera sans aucune certitude, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai mis une filiation, certes, mais en pointillé et marqué du point d'interrogation. Si Vrtrakna avait à l'époque de la indo-iranienne, une conception ritualiste, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le restituer. Vous ferez remarquer d'ailleurs que la manière dont je vous ai exposé le concept de Vrtrakna, c'est la notion qui incarne la réussite du sacrifice. La notion qui incarne la réussite du sacrifice, selon l'auteur du Bisprat. Mais cette notion de réussite sacrificielle, elle est connue. Mais elle s'exprime dans le domaine indo-iranien par des mots extrêmement différents. Pour l'Indien, la situation est aussi problématique. Mais la chose est claire pour les Gathas. La chose est claire pour les Gathas. Réussir le rite, réussir le sacrifice, c'est un vieux mot indo-iranien, et typiquement, il disparaîtra que l'Avesta récent. C'est la notion de Rada, la réussite. Rada. Raison pour laquelle l'adjectif en ra qui correspond, Ardra, me paraît être le nom de l'officiant, celui qui réussit le rite. C'est le nom des membres du collège sacerdotal. Mais ce mot, nous le connaissons bien en indien, c'est radas. Or, réussir un sacrifice, c'est effectivement la racine rad qui est utilisée en indien, c'est arriver à la réussite finale. Mais le dérivé correspondant à la vestique rada, qui est radas, a pris un sens tout à fait différent dès le Rig Veda, et il signifie la générosité. La générosité, c'est ce qu'on demande souvent à une drame manifestée. Donc la situation n'est pas claire, pas du point de vue sémantique, pour exprimer cette notion de réussite sacrificielle. Mais de toute évidence, rada, c'est un terme général. On a réussi, c'est fait, pas bien. Tandis que Vrtrakna, c'est une interprétation de ce en quoi consiste la réussite. Et comme nous l'avons vu, nous avons la dernière fois tenté de reconstituer toute cette filière finale qui amène finalement à ce que le sacrifice soit réussi, c'est-à-dire que l'accumulation sacrificielle produit un déséquilibre des pouvoirs entre le pouvoir d'Awamazda et le pouvoir d'Angramainyu. Le pouvoir d'Awamazda l'emporte sur celui d'Angramainyu. Ce déséquilibre des pouvoirs permet de briser l'obstacle, Vrtrakna. Le fait de briser l'obstacle permet de gagner, de conquérir le prix de victoire, le Mijda. Et en quoi consiste le prix de victoire? C'est l'immortalité, l'immortalité finale, hein, l'immortalité de la résurrection. Donc c'est la filière supposée par les auteurs de l'Avesta récent. Mais donc, cette notion de réussite sacrificielle, vous voyez qu'on est mal à l'aise avec le vocabulaire indo-iranien pour reconstituer un concept commun. Alors il y a effectivement, et c'est un des très rares cas, il y a effectivement une trace de filiation mythologique, car tout de même l'expression de Trita est certainement présente dans la tradition avestique, avec Traitauna Vrtrajan qui libère les eaux en tuant le serpent, et Inda Vrtrahan qui libère lui aussi les eaux en tuant le serpent Vrtra. Mais il faut nécessairement ici aussi passer par une zone tampon dans les deux domaines, une zone tampon où les représentations sont filtrées. Du côté indien, c'est l'avènement d'Indra. L'avènement d'Indra. L'avènement d'Indra est dans la tradition indienne quelque chose d'énigmatique, n'est-ce pas ? D'où sort cette divinité ? Nous ne pouvons pas affirmer de façon évidente, comme on le fait malheureusement, on l'a fait très longtemps, que l'Iran a rejeté ou méconnu Indra. Le problème n'est peut-être pas là. Le problème, c'est peut-être de savoir pourquoi l'Inde l'a adopté. C'est un intrus dans le panthéon indien. Et c'est un intrus qui, comme je vous l'ai fait remarquer, est une de ces divinités dont le nom n'a d'étymologie que si on le veut vraiment. Car quand on veut une étymologie, on la trouve. Ça ne rate pas, on la trouve toujours. Mais dans le nom d'Indra, ça ne saute pas aux yeux. Il faut un certain... Les Indiens, d'ailleurs, eux-mêmes procédaient, ne comprenaient pas bien le nom d'Indra, parce que nous avons des textes brahmaniques où l'on essaye d'expliquer son nom, mais on voit bien que ça ne marche pas phonétiquement. Alors, par exemple, dit l'auteur du Upanishad, son nom dérive de allumer le feu, Ind, hein, Ind, allumer le feu sacrificiel, mais ça fait Inda, mais ça a été transformé en Indra parce que les dieux aiment l'ésotérisme, alors on déforme le nom. Mais c'est un aveu d'impuissance phonétique et grammaticale, bien sûr, à expliquer le nom. Indra est pour cela un dieu nécessairement que nous ne pouvons pas attribuer nécessairement à l'époque indo-iranienne. Alors, il faut bien le dire, parce que ça, je pense que nous devons maintenant postuler l'ancienneté et la présence massive dans l'Avesta de la doctrine des âges du monde. C'est là le filtre iranien. C'est quelque chose de postérieur à l'Avesta ancien, car il n'y a pas de doctrine des âges du monde dans les Gathas. Je dis des âges du monde et pas des millénaires, parce que, vous savez bien, l'Avesta ne chiffre pas généreusement la durée de ces âges. hein, mais c'est la représentation de l'histoire du monde en quatre périodes. Plus tard, on attribuera à chacune, peut-être déjà dans l'Avesta, mais ce n'est pas sûr, 3000 ans de durée. Hein, donc, comme je vous le disais, le monde sous forme mentale, le monde sous forme matérielle mais immobile, le monde sous forme matérielle mais mobile, sans la religion, et puis la forme matérielle mobile avec la religion. On voit bien, d'après le mythe de Traitauna, qui se situe à la... qui prépare la dernière phase de la, des âges du monde, c'est la venue de la religion, que le mythe a été intégré à une représentation de l'histoire mythologique. Alors, je voudrais faire aussi quelques remarques sur ce qui se passe ici. Donc il y a une zone tampon, c'est certain. Une zone tampon où les mythes sont filtrés, hein, de part et d'autre de l'Indus, si je puis dire. Mais cette doctrine des âges du monde a aussi produit une allégorie ritualiste, car rien ne nous indique que Vertrekna soit à l'origine autre chose. L'allégorie de ce bris de l'obstacle qui survient à la fin du rite, c'est évidemment une allégorie liée à la représentation des âges du monde, puisque c'est, naturellement, chaque sacrifice le préfigure. Hein. Chaque sacrifice est censé annoncer, préfigurer ce qui se passera lors du sacrifice final du Saoshat. Le fait que Saoshat, le premier sacrificateur du monde matériel, soit le dieu Vertrajan par excellence, et que cette qualité-là soit transférée dans la durée à l'ultime sacrifiant, le Saoshant, est évidemment clair à cet égard. Si cela est correct, cela signifie que la théogenèse était encore possible dans le système mazdéen très tardivement, alors que la doctrine avestique récente des âges du monde avait déjà été mise au point. Ça implique une longue durée de théogenèse. Ce n'est pas le cas de Saoshat ou d'Ashi. Il y a théogenèse iranienne, bien entendu, mais ils sont déjà présents dans les Gathas. C'est une théogenèse beaucoup plus ancienne. Les Fravashi, nous avons vu que leur cas était assez curieux. Ne voyons pas comment, bien sûr, les Fravashi prennent un rôle mythologique dès lors que l'allégorie du choix rituel a été divinisée. À quelle époque cette divinisation a-t-elle lieu? On sait très bien qu'elle est greffée sur une spéculation, sur un passage du Yasnahaptankaiti, ça aussi, les intercalations du vice-prêtre l'attestent. Enfin, l'intercalation entre le Yasnahaptankaiti a bien soin de faire remarquer que le mot Fravashi figure dans le texte du Yasnahaptankaiti. Il y a donc une spéculation. Mais les Fravashi, même si leur mythologie est liée à la théorie des âges du monde, à la doctrine des âges du monde, leur personnalité divine, pas nécessairement. Leur personnalité divine pourrait être plus ancienne. Donc, dans le cas de Vertrekna, nous avons un processus de personnification divine qui est relativement récente et qui implique, pour la tradition mazdéiste, une longue possibilité, une longue période où la théogenèse restait possible. Mais la mythologie de Vertrekna, comme celle des Fravashi, d'ailleurs, est secondaire. Et ce n'est pas une mythologie héritée. Hein, bon, bien vu, il n'y a rien qui implique cela dans la tradition indienne, ni rien qui soit restituable en indo-iranien. La mythologie de Vertrekna, qui est faible, je vous le disais, son yacht est faiblement informatif, quoique nous allons revenir à certains aspects. Mais c'est une mythologie secondaire qui implique aussi une longue durée, par contre, de mythogenèse. Hein. Lorsque cette théogenèse a eu lieu, déjà tardive, on pouvait encore inventer des rites. Nous sommes mutatis mutandis, hein, comprenez-moi bien. Nous sommes mutatis mutandis dans une situation à la brahmanique. Les auteurs des brahmanas inventent leur mythe. C'est pas, ça n'a pas du tout la même apparence. Vous savez, ce sont des mythes ad hoc. On le voit bien, on le comprend. Hein. Mais la production de mythes est encore possible, et ce sont des mythes qui sont essentiellement centrés sur les caractéristiques d'une allégorie théologique qui est forgée sur l'exégèse des textes plus anciens, dans ce cas-ci. Alors je voudrais peut-être revenir maintenant au... Vous savez que j'ai commencé cet exposé en faisant l'éloge des principes méthodologiques qui avaient guidé Benveniste et Renoux dans leur livre « Vertra et Vertracna ». En trois volets, disait Benveniste, hein, quoique l'un est tacite, est implicite, mais nous l'avons dégagé. Il faut bien étudier la portée des mots, bien sûr. Si nous laissions, comme dans le dictionnaire de Bartholomé, le sens de victoire au mot « vertra », simple, plutôt qu'à « vertracna », où ça va de soi, ben, si « vertra » simple signifiait la victoire, comme beaucoup, comme les philologues le croyaient avant 1934, toute spéculation, toute étude sur cet aspect du panthéon mazdéen serait impossible. Toute étude n'est possible que depuis le livre de Benveniste Renoux et le fait, le dégagement par Benveniste, effectivement, nous n'avons rien à y apporter de nouveau du fait que Vertra est bel et bien un terme abstrait qui désigne la force de défense, la puissance défensive, et qui est complémentaire à Ama, la puissance offensive. Bon, bien peser les mots, Benveniste l'a fait. Ça permet... maintenant une réflexion, une étude réellement efficace. Alors, mythologie, c'est pareil, disait aussi Benveniste. Étudiez soigneusement ce qui se passe dans le domaine indien et dans le domaine iranien séparément. Hein. Avant, mythologie comparée si on veut, conclut Benveniste, mais d'abord et avant tout, mythologie séparée. Ben oui, c'est efficace, n'est-ce pas ? Et je crois que nous l'avons précisé dans cet exposé, parce que cette séparation, elle s'incarne hein, dans le schéma qui est là, n'est-ce pas ? C'est la présence des zones tampons. Hein, c'est la présence des zones tampons qui modifie complètement la manière dont on peut se représenter une religion indo-iranienne commune, primitive. Alors, Benveniste avait aussi, ça c'est le troisième aspect de sa méthodologie, il avait d'une manière intéressante et qui a été malheureusement extrêmement fragile, car ça ne s'est plus représenté dans nos études, il avait renversé la distribution des conservatismes et des innovations, car... Vous savez qu'il est traditionnel de considérer que l'Iran est innovant et l'Inde conservatrice. Benveniste a renversé ce rapport en disant dans ce cas-ci, l'Inde qui a innové en donnant naissance à un démon Vertra et à un mythe de libération des eaux par Indra, tandis que l'allégorie de la victoire, Vertracna, est une allégorie ancienne et qui, à laquelle... l'Iran est resté fidèle. Mais oui, j'irai plus loin, n'est-ce pas ? Et je vous dirai sur le plan des principes, c'est tout aussi intéressant, sur le plan des principes, il y a des doses égales d'innovation des deux côtés. Chaque domaine indo-européen, dans le domaine conceptuel et dans ce domaine particulier des concepts qu'est la religion, est resté innovant. Nous voyons les innovations se traduire aussi dans ce tableau, de chaque côté. Et je dirais, on voit combien l'innovation iranienne est complexe, parce que là, nous avons une chaîne où l'on peut rattacher plusieurs choses. Pas à partir de la doctrine des âges du monde, on crée des allégories divines. Et les allégories divines vont s'enrober d'une nouvelle mythologie. Il y a ainsi une véritable... Ces domaines particuliers restent productifs. Ils ne s'expliquent pas nécessairement toujours par la fidélité au passé. C'est pas cette idée qu'il y a dans les vieux textes indiens ou iraniens une représentation qui peut-être même remonte aux temps indo-européens, et je pense une illusion créée par le bel outil efficace et performant qui a été la grammaire comparée des langues indo-européennes. Il était tellement possible de faire des comparaisons, et des comparaisons tellement précises, tellement fidèles, qui se traduisent en termes mathématiques, qu'il était tentant d'opérer de la sorte dans le domaine des représentations conceptuelles. C'est à cela que Dumézil s'est attaché. C'est à cela que Dumézil s'est attaché. Et peut-être que la situation c'est aussi, est devenue encore peut-être plus prégnante du fait que dans la grammaire comparée dans les dernières années du XXe siècle, c'est aussi étendu à un autre aspect linguistique qui n'est plus strictement l'étude de la langue, mais qui est l'étude des formules littéraires, ce à quoi s'est appliqué Calvert Watkins, qui est un grand partisan aussi du conservatisme littéraire et représentatif indo-iranien. Il est représenté chez nous à Paris, bien sûr, par Françoise Bader, mais avec une position beaucoup plus nuancée sur les possibilités d'innovation dans chaque domaine particulier. Et cette possibilité de toujours porter les faits en comparaison avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de précision, beaucoup de rigueur scientifique a peut-être contribué à effacer le caractère innovant des représentations conceptuelles dans les textes, dans nos textes anciens de l'Inde et de l'Iran. Alors je voudrais plaider finalement pour que nous en revenions à la modestie et au scepticisme d'Antoine Meillet en 1908. Ce qu'il avait dégagé pour le domaine indo-européen s'applique même au domaine plus restreint et beaucoup plus compact et beaucoup plus soudé de l'indo-iranien. Entre un panthéon védique et un panthéon avestique, il n'y a pratiquement rien en commun. Après avoir fait, un petit nettoyage, nous sommes arrivés, je vous le rappelle, à isoler trois divinités communes, Mitra, Vayu et Apamnapad, dont les destins sont d'ailleurs diffèrent considérablement. Alors, il ne faut pas donc s'étonner de cette situation-là. Et cela parce que simplement la capacité d'innovation est restée intacte dans tous les domaines. Je voudrais maintenant en venir, pour terminer avec la personne de Vertrakna, avec la personnalité de Vertrakna. Je voudrais faire quelques remarques complémentaires et qui sont une sorte de petites études corollaires à sa personnalité. Vous savez, comme beaucoup de dieux mazdéens, Vertrakna est la figure centrale d'une équipe. C'est le capitaine d'équipe. Et il s'entoure d'un certain nombre d'acolytes. Il en a deux préférentiellement. Parfois le vent, qui est sa représentation métaphorique, mais laissons-le. Il y a Ama, oui, c'est la notion complémentaire, c'est la force offensive. Donc, briser la défense de l'adversaire se combine en équipe avec la puissance offensive, Ama, c'est très clair. Nous sommes donc dans le domaine, bien sûr, disons, dit mes guerriers, mais ça, je vais y revenir. Et puis alors, il y a une autre entité qui est les féminines et qui a une épithète permanente. C'est la déesse Uparatat. Uparatat. Et elle est qualifiée systématiquement, c'est quasi un second nom, de Vanainti, participe présent de la racine van, qui signifie effectivement vaincre. Alors tout paraît bien clair, bien net, bien logique. La supériorité victorieuse. Oui, ce n'est pas si net ni si logique, car linguistiquement, c'est clair, c'est un terme lisible, comme souvent les noms des divinités mazdéennes. C'est un dérivé abstrait en tat. C'est un suffixe secondaire. C'est un suffixe secondaire qui crée des abstractions féminines sur un adjectif upara. Or, upara existe, c'est le sanskrit aussi, les deux mots sont restés tout à fait semblables. Upara est un dérivé adjectif en ra, formé sur la préposition ou pas. Oui, c'est ici que le sens de supériorité devient moins normal. Car ou pas indique la contiguïté. Ça se dit de c'est quelque chose qui est ou pas d'autre chose, ça veut dire qu'il le touche. Il est au contact. Il est au contact. Ou alors, il le touche, mais dans une position bien particulière. Il vient derrière, lui, colle au dos. Hein. Donc, après. Ce sont les deux possibilités de sens que nous pouvons répertorier. Alors, que serait-il passé? Pourquoi dire la supériorité? Eh bien, il semble qu'il y ait eu une attraction de l'adverbe proposition « ou pari », « ou para » ou « pari ». Mais « ou pari », étymologiquement, effectivement, veut bien dire « au-dessus ». Au-dessus. Et on arrive comme cela à un système fort cohérent où l'on voit une préposition ou pari, ou païri en avestique, ou pari, correspondre au-dessus, correspond à un adjectif ou para, qui est au-dessus, supérieur, et qui correspond de manière très évocatrice à une préposition adairi, qui est en dessous. En dessous, et un adjectif adara, qui se trouve en dessous. Alors, on a pensé que ce changement de sens de upara, passant de contigu à supérieur, n'était pas propre à l'avestique. L'on a proposé de donner ce sens à quatre attestations du upara védique. Et il est très intéressant et utile d'ailleurs de relever d'emblée que c'est un indianiste particulièrement familiarisé avec les données avestiques qui a fait cette hypothèse, puisqu'il s'agit de Carl Friedrich Geltner, l'éditeur de l'Avesta. Bon, je crois pas qu'il soit intéressant que nous analysions ensemble deux de ces exemples, parce que Renou a fait remarquer que oui, bien peut-être, mais que ces contextes ne sont pas suffisamment significatifs et que dans tous les cas, on pouvait s'en tenir à proche. Mais il y a deux exemples qui sont extrêmement intéressants. C'est une attestation de Uparatat. Deux attestations de Uparatat, le même mot qu'en avestique dans les textes védiques. Les deux attestations sont au locatif. Uparatati. Uparatati. La première, les vaches meuglent, elles incantent le soleil, elles crient vers le soleil, svaranti, du bruit, elles incantent le soleil, suryam, uparatati, locatif. Et puis, une nouvelle précision de temps, au soir et au matin. Ça fait allusion, effectivement, à cet énervement des vaches que l'on peut observer, c'est pas, à l'aurore et au crépuscule. Bon, alors comment comprendre Uparatati? Elles incantent le soleil au soir et au matin. Locatif singulier d'Uparatat. Cet exemple a laissé perplexe à peu près tous les indianistes. Et alors, Geltner comprenait Uparatati, qui est pourtant bien un locatif singulier nominal, comme une préposition. Il lui accordait une fonction de préposition, où il disait bien « elles vont derrière le soleil »,« derrière, hinter der Sonne », traduit-il. Et Renou, perplexe lui aussi, donne une traduction non commentée, où il traduit « upara », il comprend que, oui, c'est la position supérieure du soleil, donc il traduit « au zénith », au soir et au matin. Donc, c'est fait l'hypothèse de Renou, ce n'est pas dans ce cas-ci Geltner qui fait l'hypothèse d'un sens supérieur dans ce cas-ci, mais c'est Renou. Alors, un autre exemple, le deuxième exemple est lui aussi intéressant. Il est question des dieux Urbu. Les dieux Urbu sont vainqueurs de tous les Aris. Vous savez, les Aris, c'est le nom de l'ennemi. Et dans ces cas-là, ils sont supérieurs et l'action qu'ils font, c'est Uparatati. Paratati, locatif à nouveau, van. C'est un verbe, un imparfait sans augment, si je puis le définir comme ça. C'est le verbe, c'est intéressant, parce que par hasard, on rend plus complexe le parallèle. Voilà le verbe vaincre avec uparatat, dans le texte védique. Ça n'avait jamais été relevé, c'est sans doute trop bon. Mais c'est frappant, c'est souvent assez surprise lorsqu'on va voir les faits védiques. On trouve un peu un parallèle tout à fait... Bon. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc, ils sont vainqueurs des Aris ou Paratati, locatif. Bien, alors, réfléchissons en termes de supériorité, si vous voulez bien. Bien, oui, on peut en faire un locatif de temps elliptique. Quand il s'agit de montrer que l'on est supérieur, quand il s'agit de montrer sa supériorité. Alors, j'en reviens à l'avestique pour dire que Bartholomée avait bien vu dans son dictionnaire que upara pouvait ne pas avoir le sens de supérieur, qu'il pouvait avoir conservé le sens original de contigu, hein, contact 2, ou de consécutif, la contiguïté par l'arrière, ou de consécutif dans le texte avestique. L'exemple, c'est l'Iasnadise 2, où l'on fait l'éloge des pressoirs de Soma. On fait d'abord l'éloge d'un pressoir qui est dit « fratara », qui vient d'abord, littéralement. Et c'est le pressoir supérieur, inférieur, celui qui se trouve en dessous, c'est-à-dire le pressoir sur lequel l'on dépose les branches, en tout cas le végétal que l'on va pressurer. Et puis, on fait l'éloge du pressoir upara, voilà notre mot, supérieur. Supérieur, oui, mais fratara ne s'oppose pas à supérieur. Comme l'indique, ce n'est pas la représentation que l'on a des choses. Il y a bien sûr collision entre les deux représentations. Un pressoir inférieur où l'on dépose le végétal, un pressoir supérieur que l'on va abattre sur lui, comme dit le texte, hein, avec toute la force d'un homme, hein, pour bien sûr faire jaillir le colostrum de la plante. Bon, mais comme le fait remarquer Bartholomée, la représentation des choses, si elle équivaut à cela pour le point de vue du sens, c'est une autre chose. Le pressoir est dit fratara parce que c'est celui dont on se sert d'abord, on met d'abord les branches. Et l'autre est dit upara, il est consécutif, celui qui vient ensuite, parce que c'est celui ensuite que l'on actionne pour pressurer le végétal. Alors je m'étais demandé il y a quelques années, ça remonte il y a quelques années, j'avais pour un volume de mélange quelqu'un dont je ne citerai pas le nom pour ne pas qu'il sache qu'on lui prépare un volume de mélange, moi je lui prépare depuis 10 ans, ça devient long. Et j'avais donc il y a 10 ans proposé d'interpréter uparatat, par son sens original. Et je m'étais demandé si, dans le contexte guerrier, qui est tout de même celui du yacht de Vurtrakna en général, il ne s'agirait pas de... Bon, Vurtrakna brise la défense de l'adversaire. Puis, quand la défense de l'adversaire est brisée, est-ce que ça ne voudrait pas dire au contact? Est-ce que ça ne voudrait pas dire le corps à corps? Donc cette interprétation est toute simple, elle se fonde sur le sens étymologique, en restaurant partout le sens original et étymologique. Je vous ferai remarquer que ça ne convient pas mal, d'ailleurs, hein, aux exemples védiques. Les Urbu ont vaincu les Aris dans le corps à corps, ou paratati, locatif. Les vaches meuglent en direction du soleil, le soir et le matin, quand il est au contact de la terre, hein, au moment où le soleil est au contact de la terre, c'est-à-dire à l'aurore et au crépuscule. Donc la représentation peut bien fonctionner. Je suis content tout de même que cet article n'ait pas paru, parce que ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait plus parce que je me suis laissé aller, je me suis rendu coupable moi aussi de ce que j'ai reproché d'ailleurs, Benveniste nous, hein, c'est de faire de l'art militaire de cabinet. Je ne sais pas du tout s'il y a une représentation de tactique militaire aussi ferme, on brise la défense, puis on passe au corps à corps, etc. Je rappellerai d'ailleurs qu'un dieu comme Vayu, qui passe pour un dieu guerrier, lui aussi, est dit « uparo kairia », ce que ça ne voudrait pas dire « habile au corps à corps ». C'est une hypothèse que je faisais en corollaire de celle-ci. Alors, pour vous montrer qu'une entité qui paraît très très simple est peut-être plus complexe, et je vais encore être plus complexe à présent. Passons à l'idée, si vous voulez bien, de consécutivité. Il y a tout de même un texte un texte avestique qui oppose, c'est le Videvdat 9, qui mentionne en juxtaposition, c'est une litanie en yazamaïdé, hein, litanie en yazamaïdé, deux entités féminines. L'entité Parvatat, Parvatat, formation est la même qu'Uparatat, mais sur Porva, premier, ou du début. Donc, c'est l'allégorie qui incarne le fait de venir d'abord, d'être la première, hein, d'être le premier. Et puis, tout de suite, en contiguïté, Uparatat. Alors, cela paraît tout de même former complément, hein, ce qui vient d'abord, ce qui vient ensuite. Donc, si je puis me permettre de complexifier les notions, je dirais l'antériorité et l'ultériorité. L'antériorité, mais antériorité et ultériorité de quoi ? Eh bien, nous avons tout de même des indices dans l'Avesta ancien. N'oubliez pas que le Visprat est une forme de commentaire des Gatha, comme je vous le disais tout tantôt. Or, le Yasna 33-14, c'est la dernière strophe de l'avant-dernier chapitre de la première Gatha, dit que vienne d'abord, que la priorité pour Vatat, par Vatatum, et en apposition, consiste en Ratam. C'est un accusatif singulier, parce que pour Vatatum est un accusatif, mais c'est l'accusatif d'un mot Rata, qui désigne la générosité vraiment dispendieuse. Hein. C'est l'extrême générosité, ce qui se présente parfois dans le rite. Ra, c'est donné, mais c'est donné avec à profusion. Donc, ce qui vient d'abord, c'est la générosité dispendieuse. C'est la parvatat, c'est l'antériorité. Et alors, le yasna 37.2, cela, c'est le yasna haptankaiti. Yasna 37.2, c'est la partie proprement yasna. L'on va sacrifier d'abord dans l'énumération du yasna haptankaiti à Ahura Mazda. Et on lui sacrifie, comme toujours, au moyen de l'instrumental dans la réaction de yaz. Yasnanam paurwatata. Bien, comprenez si vous voulez, mais moi je ne comprends a priori pas bien. Avec l'antériorité des sacrifices, au moyen de l'antériorité, de la priorité des sacrifices. Paurwatata, et puis la désinence de l'instrumental. Paurwatata. Voilà. Je crois que c'est essentiel ce que nous avons ici, n'est-ce pas ? Nous pouvons comprendre ceci de façon... voyez, comme nous connaissons parfaitement le mot, nous pouvons décortiquer, il est très simple, ce n'est pas difficile, on voit bien. Mais ce qu'il y a fondamentalement de difficile à comprendre pour nous, c'est ce qu'il y a vraiment dans la notion de premier. Est-ce que ça veut dire important ? Est-ce que ça veut dire qui vient en tête ? Qui vient d'abord ? Les nuances que peut présenter un terme comme premier, hein, dans les textes vieillavestiques surtout, nous ne sommes pas très à l'aise avec ça. Alors, je me demande, fondamentalement, étant donné, je terminerai par cette hypothèse-là maintenant, enfin, non, je terminerai encore avec autre chose, excusez-moi, mais je formulerai cette hypothèse-ci, ce n'est qu'une hypothèse, et je me demande s'il n'est pas fait allusion à la première partie du sacrifice et à la seconde partie du sacrifice. Paurwatata étant la première partie du sacrifice. C'est effectivement là que se situent les deux attestations de Parvatata dans l'Avesta. Hein. Vous savez, le Yasna 33, ça va achever la première partie de la récitation de l'Avesta ancien, l'Agatha Runavaiti, celle qui vient avant le Yasna Haptankaiti. C'est la première partie du sacrifice. Puis ce sera l'Uparatat des Gatha, la seconde partie de la récitation des Gatha. Alors, dans l'Yasna Haptankaiti, la situation est aussi quelque chose de semblable, puisque le Yasna du Yasna Haptankaiti se distribue sur trois chapitres, 37, 38, 39, et le tout premier chapitre, le premier, celui-là, c'est celui d'Ahura Mazda, le Parvata Yasnanam. C'est lui qui a la première partie, naturellement, du sacrifice du Yasna Haptankaiti. Alors la notion d'Uparatat, elle viendrait alors recoller à Vertrakna d'une autre manière. Vartakna, le dieu de l'interstice entre le Yasna 51 et 53, a pour acolyte, évidemment, la déesse qui incarne la phase cruciale du rite, sa deuxième partie, sa fin, la seconde partie du rite, marquée par la deuxième récitation du Yasna Haptankaiti. Bon, alors je reviens à une chose pour terminer cet examen. On a aussi beaucoup discuté de la possibilité du dieu Vartakna de prendre des formes diverses. C'est un dieu à avatar, un dieu qui prend les formes d'autres choses. On parle des avatars de Vartakna, ce qui permet de faire des comparaisons, mais extrêmement vagues, avec certaines réalités indiennes, n'est-ce pas ? Bien sûr, les avatars de Vishnu, tout le monde connaît, mais c'est très vague. Bon, Vartakna n'est pas Vishnu. On peut faire aussi, puisque nous sommes dans un contexte, Benveniste l'a fait d'ailleurs, et Renaud Benveniste l'ont fait, n'est-ce pas, nous sommes dans le contexte de combat d'Indra contre Vartra, or l'hymne qui raconte avec le plus de précision, Rig Veda 1.33, le combat entre Indra et Vartra, explique, laisse percevoir, Tim l'a très bien montré, que c'est un combat de sortilège en partie. Un combat de sortilège. Les adversaires se métamorphosent pour perturber l'autre. Hein. Ainsi, on dit Indra, toi qui es un seul dieu, Iko Devo, tu es un seul dieu, tu es devenu aussi nombreux que les cheveux sur la tête. Bon, il se démultiplie, n'est-ce pas, pour perturber l'adversaire, etc. Bien. Et on voit à peu près quelque chose, comme je l'ai dit, quand on a une idée, avec le combat entre Merlin l'Enchanteur, dans Merlin l'Enchanteur de Disney, n'est-ce pas, où le combat entre les autres sorciers prennent cette forme-là. Or, le combat d'Indra contre Vartra, c'est ça en partie, combat de sortilège, métamorphose des adversaires. On a dit, bon, il y a peut-être de ça dans Vartakna. Mais que se passe-t-il dans le Yasht de Vartakna ? C'est là peut-être la petite information que nous avons. On nous dit, la première fois que le Vartakna est venu en char, il vient en char, hein, à Zarathoustra, il avait la forme de ceci, il avait la forme de cela. Alors, il prend 10 formes successives. La première, c'est le vent, sa représentation métaphorique. Et puis, toutes les incarnations, pour entre guillemets, suivantes, sont les mêmes. Ce sont celles d'un animal mâle et qui manifeste d'une certaine façon sa puissance sexuelle et fécondante. Le taureau, le cheval, le chameau, le sanglier, l'homme de 15 ans, l'âge de la nubilité, hein. L'autour, c'est cet oiseau de proie dont nous parlions, le bélier, le bouc, et puis finalement, dépourvu de tout l'homme, un homme, mais qui ne manifeste plus spécialement la sexualité ou la forme fécondante, mais plutôt une sorte de forme glorieuse. Alors, c'est différent. Est-ce que ce sont des formes prises par Vartakna ? Ben, je crois qu'il s'agit... le premier Vartakna, ça veut dire la première fois que Zarathoustra, procédant au sacrifice, a atteint le Vartakna entre le Yasna 51 et 53. Eh bien, ce Vartakna, ce brite l'obstacle, la réussite de son sacrifice s'est matérialisée sous la forme de... Ce que l'on observe ici, c'est une sorte de zoogenèse, hein, des premiers sacrifices de Zarathoustra. L'ultime forme matérielle prise par Vartakna est celle d'un homme, mais cela, c'est certainement, peut-être, on pourrait y réfléchir, n'est-ce pas, la forme finale du corps ressuscité. Cet homme, curieusement. L'homme vient deux fois. Hein, d'abord, sous sa forme de l'homme en tant que nubile, qui va se marier, qui va avoir des enfants, qui va prendre en charge les rites domestiques. D'abord, et puis il revient à la fin sous une autre forme qui est, elle, dépouillée de tout contexte de fécondité. Alors, on peut voir les choses autrement. C'est pas tellement un dieu capable de prendre les formes les plus diverses. Non, c'est une abstraction qui se matérialise sous une certaine forme lorsque un personnage d'exception, hein, qui joue son rôle lui aussi dans la grande mythologie mazdéenne, Zarathoustra, a procédé à ses 10 premiers sacrifices. Alors voilà pour Vartakna, j'ai voulu vous montrer bien sûr le cas d'une divinité qui est une divinité nouvelle aussi, c'est une divinité naissante, qui est de date beaucoup plus récente, semble-t-il, parce que plus liée à une exégèse tardive des Gathas que Sausha, Ashi ou les Fravashi, Alors, il faudra bien, puisque nous parlions, que nous disions, parce que c'est important, nous avons fait avec Apam Napat un autre cas, je me réserve de faire l'exposé de la semaine prochaine, il faudra que nous disions tout de même un mot de cette, peut-être ce dieu le plus énigmatique du Panthéon, qui est Mitra. Divinité qui survit, comme Apam Napat, comme Vayu, mais il faudra dire un mot de sa problématique dans l'Avesta. Quelques réflexions à cet usage. Je vous remercie de votre attention.